franceinter.fr.
La chimie des origines de la vie, c'est donc à la une de la science aujourd'hui. Pour la première fois, des chercheurs français et américains mettent en évidence des traces de protéines dégradées dans des micro-organismes fossiles, vieux donc de 2 milliards d'années. Une découverte parue dans la revue Nature Communication et qui pourrait donc bientôt nous aider à comprendre comment les premières formes de vie sont apparues sur Terre. Sylvain Bernard, vous êtes en ligne pour en parler avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Vous êtes chercheur en paléontologie chimique à l'Institut minéralogique de physique des matériaux et de cosmochimie. Et vous êtes donc co-auteur de ces travaux. Avant toute chose, ces micro-organismes fossiles que vous avez analysés, ils ressemblent à quoi?
Alors, ils ressemblent à des petites sphères, hein. C'est des micro-fossiles, donc ils sont de taille micrométrique. Ils font à peu près une dizaine de microns de diamètre. Et puis, ils sont préservés en trois dimensions. C'est surtout ça l'important.
Et quand on trouve comme ça des formes dans la roche, comment on est sûr que ça a un jour été des êtres vivants?
Alors ça, c'est toute la question. En fait, c'est très compliqué d'identifier l'origine biologique de ces objets, de ces microstructures. On a plusieurs arguments. Les arguments principaux, c'est qu'il faut que ces objets aient le même âge que la roche, qu'ils aient été inclus dans la roche au moment de sa formation. Et puis derrière, les critères pour déterminer l'origine biologique, ils sont souvent discutés. Il y a des critères morphologiques, il y a des critères isotopiques. Et puis maintenant, donc, il y a des critères chimiques.
Oui, ça fait 50 ans qu'on essaye de trouver des formes organiques dans ces restes. Là, vous avez trouvé des protéines. Comment est-ce que vous avez fait?
Alors en fait, ces objets, ces microfossiles qu'on a étudiés, ils ont été découverts effectivement dans les années 60 et ils ont été à l'époque décrits comme étant les plus vieux microfossiles retrouvés dans des roches. Et c'est admis depuis que ces objets étaient des micro-organismes. Donc suivant différents critères, nous on s'est intéressé à aller regarder la chimie de la paroi de ces objets. Et donc on a utilisé des techniques synchrotron, donc des techniques qui utilisent un accélérateur de particules pour aller mesurer à toute petite échelle, donc avec un échantillonnage très petit de l'ordre de la dizaine, de la quinzaine de nanomètres. Et ça nous a permis d'avoir accès à la chimie de ces membranes. On a regardé exactement de quoi ils étaient constitués. Ces microfossiles.
Donc Sylvain Bernard, ça veut dire qu'il a fallu longtemps et grâce aux nouveaux outils pour pouvoir découvrir que la chimie des premières formes de vie pouvait traverser le temps de cette façon?
Voilà, alors là on n'a pas forcément regardé les premières formes de vie sur Terre. En fait, on ne sait toujours pas exactement quand la vie est apparue sur Terre. On sait qu'elle existait il y a 2 milliards d'années et donc on sait que ces objets étaient des micro-organismes. Toute la question jusqu'à présent qui restait en suspens, c'était est-ce qu'on peut préserver, outre des morphologies, est-ce qu'on peut préserver des informations chimiques? Là, ce qu'on a pu montrer, nous, en utilisant ces techniques de pointe, effectivement, c'est que, effectivement, dans certains cas, on a des informations chimiques qui sont préservées. Alors, on n'a pas préservé des protéines, on a préservé des groupements amides qui participent à la liaison peptidique et donc à la liaison entre les différents acides aminés pour faire des protéines. C'est pour ça qu'on dit qu'on a observé des protéines dégradées, des fragments de protéines. Mais c'est déjà une découverte assez exceptionnelle parce qu'on pensait jusqu'à présent que l'histoire géologique des roches effaçait toutes ces informations chimiques sur ces organismes.
Est-ce que ça nous permet d'aller plus loin dans la connaissance du métabolisme de ces formes de vie ou de leur environnement?
Alors disons que c'est une première étape. Maintenant qu'on s'est rendu compte qu'on peut préserver des informations chimiques, il va nous falloir contraindre exactement les mécanismes de la dégradation, il va falloir quantifier la dégradation de ces molécules organiques. Et toute l'idée, effectivement, c'est de reconstruire leur chimie à ces micro-organismes, reconstruire la chimie qu'ils avaient du temps de leur vivant. Et ces informations vont nous permettre de discuter ensuite des métabolismes et de comment ils vivaient, quelle était leur source d'énergie, comment ils ont pu évoluer au cours des temps géologiques.
Sylvain Bernard, qu'est-ce qui explique justement que ces protéines aient été relativement bien protégées sur 4 milliards d'années? Il y a des conditions particulières justement qui permettent à ces micro-organismes d'être peu dégradés?
Alors là, les micro-organismes qu'on a regardés, ils ont plutôt 2 milliards d'années, hein, on n'a pas regardé les roches les plus vieilles. Mais disons que les processus qui ont permis cette préservation, même si c'est une préservation partielle, c'est principalement le fait que c'était inclus, ces micro-organismes, dans des tchertes, c'est-à-dire dans des silex, c'est des roches très très siliceuses, qui ont permis de les protéger un peu du milieu extérieur et de la circulation des fluides. Et puis une autre raison, c'est qu'en fait ces échantillons, ils n'ont pas subi de température si élevée, et donc au cours de l'histoire géologique de ces tchertes, de ces silex, ils ont été soumis à des températures de l'ordre de 150 degrés. Et on a montré expérimentalement dans le cadre de la thèse de l'étudiant qui est premier auteur d'ailleurs de cette étude, hein, Julien Léon, qu'en fait l'inclusion dans de la silice, comme ça dans une matrice siliceuse, ça permettait de préserver la chimie des molécules organiques issues du vivant beaucoup mieux que si c'était associé à n'importe quelle autre phase minérale. Mmh.
Est-ce que votre découverte va changer la façon dont on va chercher à partir de maintenant les traces de vie primitives ?
Alors, jusqu'à présent, les principaux critères pour essayer d'identifier les traces de vie primitives dans les roches, c'était des critères morphologiques. Alors, il y avait aussi des études isotopiques. Maintenant qu'on a montré, nous, qu'on avait une information chimique qui pouvait être préservée, tout du moins en partie, je pense effectivement que ça va changer notre façon d'aller caractériser ces microstructures anciennes. Et on va aller regarder un peu la chimie de ces objets. Essayer d'apporter des éléments supplémentaires, complémentaires, disons, pour les identifier.
Vous avez déjà essayé sur une autre roche ?
Alors, on a déjà essayé, dans le cadre de la thèse de Julien Léon, de travailler sur des roches encore plus vieilles, qui ont 3,4 milliards d'années. On a obtenu des résultats très intéressants. On ne peut pas encore en parler, parce que ce n'est pas encore, encore publié.
Intéressant alors.
Ouais. Et est-ce qu'on va avoir, Sylvain Bernard, des informations là aussi nouvelles sur l'émergence de la vie sur Terre ?
Ben, c'est toujours la question en fait. On a des hypothèses sur l'émergence de la vie, mais pour l'instant on n'a pas vraiment d'arguments indiscutables sur quand ou sous quelle forme, disons, ou même dans quel contexte la vie est apparue sur Terre. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas si elle est apparue au niveau des fumeurs noirs au milieu des océans ou si elle est apparue sur les continents. En fait, tout ça, ça reste des hypothèses. Et donc, aller regarder des roches très très anciennes et essayer d'aller identifier précisément des restes de vivants dans ces roches, ça va effectivement nous permettre d'avancer sur cette grande question. Oui.
Merci beaucoup Sylvain Bernard pour votre éclairage donc sur ces micro-organismes fossiles peu dégradés après quand même 2 milliards d'années passées dans ces roches de l'Ontario. Merci pour vos explications et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une info tiens pour nos amis runners, faire de l'exercice quelques heures après avoir révisé, eh bien c'est une excellente stratégie pour doper sa mémoire. Selon une étude publiée dans la revue Current Biology, l'activité de l'hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire, augmente chez les personnes qui pratiquent un sport quelques heures après avoir assimilé des connaissances. La dopamine et la noradrénaline sécrétées pendant l'effort sont en effet essentielles pour intégrer de nouveaux souvenirs et très importants pour leur consolidation. Et bizarrement, faire de l'exercice physique directement après avoir révisé n'a pas cette même vertu. L'ordinateur le plus puissant du monde est chinois, un supercalculateur utilisé dans le cadre de recherches sur le climat appelé Sunway Taihu Light et qui analyse donc des données biologiques ou encore industrielles. Il est capable d'effectuer 93 pétaflops, soit 93 millions de milliards d'opérations à la seconde grâce à ses 41 000 processeurs. Et puis comment les caméléons font-ils pour capturer une proie ? Eh bien des chercheurs belges et français ont étudié les langues de différents caméléons pour essayer de comprendre le mécanisme. Ils ont compris que la vitesse de l'organe ne faisait pas tout. Ils ont calculé la viscosité de la salive de ces reptiles et ont constaté qu'elle est environ 400 fois plus collante que la salive humaine. Le déploiement de la langue collante du caméléon est à retrouver en vidéo sur la page Facebook de La Tête au Carré.